Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, Rôle Modèle, saison 2.
Vous écoutez Chute Radio.
Pour cette nouvelle saison, Rôle Modèle revient avec le soutien d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'égalité des chances de 2020 à 2022. Femme politique, femme de la tech, femme d'engagement, elle fait entendre avec nous ses voix, femmes comme hommes, qui œuvrent jour après jour pour donner un vrai sens au terme « égalité des chances ». Elle échange avec Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum, et de Systémique, une entreprise œuvrant pour plus de femmes dans les STEM, pour sciences, technologies, engineering and mathematics. Après avoir parlé dans la première partie de ce podcast de la genèse de Systémique, les deux femmes échangent sur les fondements de l'estime de soi et sur ce qui leur a permis d'avancer pas à pas dans la vie, malgré les obstacles.
Avant de t'intéresser profondément au sujet des femmes de la tech et des sciences, tu avais déjà apporté ta pierre à l'édifice, Aude, en créant le Women's Forum. Et tu étais déjà en colère à l'époque, et ça, tu vas encore nous le raconter. Mais est-ce que tu peux nous dire quel est ton regard? Ça fait maintenant plus de 2 décennies, je crois, que le Women's Forum existe, que tu te bats pour que les femmes trouvent leur place dans la société. On sait que les choses ont progressé. On sait que des phénomènes comme MeToo ont levé le voile sur des sujets qui étaient tabous pendant longtemps. Comment tu vois cette thématique évoluer dans la société aujourd'hui, en 2023?
Alors, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, il y a une évolution qui a été un peu forcée, effectivement, par les quotas, par MeToo. Les choses ne sont pas venues naturellement. Et on sent aussi une nouvelle génération de dirigeants et d'hommes qui, eux-mêmes, ont des femmes qui travaillent. Donc ça a beaucoup changé les choses. Moi, je me rappelle, à l'époque du Women's Forum, que j'ai créé à la suite d'une énorme colère aussi, qui était que j'avais tenté d'aller à Davos. On disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain. Et j'ai essayé d'y aller en 2000, 2001, 2002. Aucune réponse. À l'époque, il n'y avait pas Internet, comme aujourd'hui. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait 4% de femmes et qu'on osait dire que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain, alors là, j'ai eu une énorme colère, exactement comme celle que j'ai aujourd'hui pour Systémique. C'est le même niveau de colère. Plutôt bon signe, donc, pour Systémique. Et j'ai créé le Women's Forum parce que je pensais qu'il fallait justement donner la parole aux femmes pour penser le monde ensemble. C'était pas les femmes entre nous, parce que c'est pas... La parité, elle est nécessaire, mais elle est surtout... C'est un équilibre du monde que nous souhaitons. C'est travailler avec les hommes, à équivalence avec les hommes, pour un monde plus équilibré. C'est ça, mon souhait. C'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, c'est ensemble, c'est comment on peut créer le monde ensemble et autrement. Comment est-ce qu'on peut avoir une vision? J'ai quelques anecdotes dont je pourrais parler tout à l'heure sur des créations de choses faites par des hommes qui ne prennent pas en compte ne serait-ce que la physiologie des femmes, et qui de ce fait amènent à ne serait-ce que les ceintures de sécurité. Si elles avaient été pensées par une femme pour...
Les
femmes, elles ont des seins, puis quand elles sont enceintes, vous voyez, les ceintures de sécurité, ben, c'est juste pas comme il faudrait que ce soit. Et des anecdotes comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Non, je pense qu'il y a une nécessité, une urgence. Le problème que nous avons maintenant, parce que j'ai vu les choses évoluer, c'est qu'on arrive à une antagonisation de la relation homme-femme. Moi, j'entends beaucoup d'hommes dire qu'il n'y en a plus que pour les femmes. Quand j'entends ça, c'est... Alors, je dois maîtriser ma colère souvent, parce que sinon je sortirais des scuds, au même titre que j'en reçois, parce que m'est arrivé, c'était la dernière fois, c'était au MEDEF, lieu assez, je ne dirais pas machiste, mais bon, il y a un peu plus de femmes, ou en tout cas ils les invitent plus, parce qu'ils essaient tous aussi de... On met des femmes, hein, il en faut, ça ne veut pas dire que c'est sincère. Ça, c'est un autre phénomène. Et donc je suis arrivé au MEDEF, et je m'installe à une table, il y a 3 hommes qui me disent « Ah, c'est à cause de vous qu'on en est là ». Parce qu'il y avait eu le Women's Forum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que les entreprises ont du mal à recruter. Et ils s'obligent, et heureusement, à mettre à équivalence des CV hommes et femmes. C'est la moindre des choses. Parce qu'avant, par facilité, on recrutait des hommes qu'on connaissait, ou c'est tout ce mouvement, ces réseaux d'hommes, puisque les femmes n'y allaient pas spontanément. Donc il n'y avait pas ces échanges nécessaires à observer où est-ce qu'on peut, et puis chercher où sont les femmes. Quand on sait qu'elles font des études jusqu'au bac, elles sont meilleures que les hommes dans les concours pour les écoles d'ingénieurs. Tout ça est une réalité, et pour autant, les phénomènes d'habitude sont ancrés profondément chez les hommes. Et c'est très difficile. Alors l'amélioration vient de la génération actuelle. Ce sont des hommes qui s'occupent de leurs enfants, des bébés, qui rêvent tous d'un congé, enfin pas tous, mais beaucoup d'un congé paternité. Et c'est complètement normal. Donc il faut aussi que la loi et notre... qu'on accompagne tout ça, parce que c'est pas évident pour une entreprise, et je comprends.
La loi est importante, mais elle n'est pas suffisante. La première loi en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes date de 1972, et plus de 50 ans après, on oscille entre 15 et 20% d'écart salarial à responsabilité égale. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et je suis complètement d'accord avec toi, les jeunes générations nous donnent beaucoup d'espoir, parce qu'il y a un changement de mentalité, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont s'occuper de leurs enfants, le fait que le gouvernement et fait voter un congé de paternité pour permettre, mais beaucoup trop peu d'hommes veulent le prendre. Et moi, je suis particulièrement inquiète de ce baromètre qui a été publié par le Haut Conseil à l'égalité il y a quelques semaines, qui disait que des hommes entre 18 et 25 ans, je crois, estiment que pour se faire respecter, il faut être violent. Donc il y a une forme de paradoxe entre cette prise de conscience de ce que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes et qu'elles méritent d'être traitées avec la dignité qui convient, mais d'un autre côté, on a le sentiment aussi de régresser sur certains sujets. Donc, est-ce que tu es confiante pour tes enfants, pour tes petits-enfants? Est-ce que tu penses que leur situation sera meilleure que la tienne, que la mienne? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un backlash qui est préoccupant?
Si j'en juge par ma petite fille, ça sera mieux. Parce qu'elle, elle est révoltée. Elle est révoltée parce que, d'abord, elle était révoltée contre son frère. Ça a commencé comme ça, alors qu'ils ont été élevés de la même façon, tous les deux. Et c'est là aussi où je voulais rajouter, par rapport aux quotas et aux hommes à la parentalité, un point important, c'est que les dirigeants d'aujourd'hui ont des filles, justement.
Moi, c'est ils en avaient déjà à l'époque.
Oui, mais à l'époque, on vivait avec madame à la maison. Et la génération d'aujourd'hui, de dirigeants d'aujourd'hui, leur mère, pour la plupart, était à la maison. Il y avait très peu de femmes qui travaillaient, encore moins qui créaient des entreprises. C'est aussi une question, donc une question de génération. Et la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ma petite fille, par exemple, qui a 18 ans, elles sont très différentes. Et elles ne veulent plus du passé, parce que ce qu'on a vécu, là récemment, il y a eu le Covid, et donc le confinement a changé complètement leur perception des choses. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe quand on cherche à recruter. Il y a une étude récemment, je crois que c'est la Harvard Business Review qui a fait cette étude sur les 90 jours. Ça veut dire quoi? Que quand un salarié rentre dans une entreprise et qu'il passe les 90 jours, on a de grandes chances de le garder. En dessous de 90 jours, on n'a aucune chance ou très peu de chance de le garder. Puisque ce sont aujourd'hui les salariés qui choisissent l'endroit où ils vont aller travailler et non pas l'inverse. Et ça peut amener justement à un développement aussi de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tous ces phénomènes cumulés créent une vraie mutation du monde, une mutation profonde et une mutation sur laquelle moi j'alerte les entreprises. Cela étant, je les alerte, mais elles en sont conscientes. Elles cherchent toutes à dire, mais comment on fait? C'est pour ça aussi que j'ai créé Systémique. Toutes les entreprises cherchent des femmes et sont prêtes à rentrer dans le capital de sociétés qui sont créées par des femmes. Et voilà, donc, dans une des recommandations que je fais, parce que je ne suis pas on est parti des femmes entrepreneurs pour arriver à ça. Les femmes entrepreneurs, moi, ce que je leur dis pour grandir très vite ou avoir une ambition, c'est de ne pas faire seule. C'est souvent les femmes, ont cette habitude, ce qui est un de mes défauts aussi d'ailleurs, c'est de vouloir faire seul. Aujourd'hui, on ne crée pas une entreprise seule. Pourquoi ? Parce que ça va être un manque de confiance de la part du banquier. C'est pour des raisons très pratiques. Créer une entreprise, c'est solliciter les banques, c'est obtenir des crédits de campagne, c'est obtenir un soutien, et les banques sont là pour ça. Elles étaient. Aujourd'hui, c'est un peu différent pour les entrepreneurs. Et donc, le faire à plusieurs, et le faire avec des hommes aussi, justement, ça, c'est une chose que je recommande beaucoup, beaucoup aux jeunes qui veulent créer des entreprises, c'est de le faire... hommes et femmes. Oui, ensemble, parce que c'est la perception et la sensibilité de chacun et les forces de chacun qui vont s'additionner au profit de l'entreprise.
Personne ne réussit seul. C'est tellement important de le rappeler. Et tu es bien placé pour le savoir, parce que tu as créé plusieurs entreprises dans ta vie, mais tu n'es pas né dans une famille d'entrepreneurs. Tu débarques de ta belle Bretagne à l'âge de 22 ans, tu arrives à Paris, tu quittes ta famille, tu quittes tes cinq frères et sœurs.
Non,
cinq
que des sœurs.
Oui, tes cinq
sœurs.
Parce
qu'il faut savoir d'où vient ma colère. Elle vient de ça. Parce que j'ai cinq sœurs. Enfin, j'avais. Il y en a une qui nous a quittés maintenant, mais j'avais cinq sœurs. Et à chaque fois, je suis la seconde. Et à chaque fois que ma mère mettait une fille au monde, elle s'excusait auprès de mon père. Et il m'a fallu des années d'analyse pour comprendre, accepter surtout. Parce que ça, j'avais compris très vite que donc, les femmes, c'était pas bienvenue. Et donc, j'ai grandi dans cette idée. Et toute ma colère et toute ma vie vient de ça et s'explique à l'aune de ça. Parce qu'à chaque fois, et je pense que si mon père n'était pas mort, on serait 12, parce qu'elle aurait continué. Parce qu'une famille bretonne sans garçon, c'est juste pas possible. Et donc, c'est d'une violence incroyable. Incroyable. Et j'avais une mère extrêmement difficile. Moi, j'ai toujours une tête de plus que les autres. Je suis née grande. Voilà, c'est comme ça. Le jour de ma communion solennelle, ce que je faisais avec ma sœur aînée, on avait 17 ou 18 mois d'écart, elle me dit « baisse-toi, on ne voit que toi ». Comment est-ce qu'on peut se construire quand on a une mère qui ne mesure pas la violence de ses propos? Or, ma mère ne mesurait pas. Moi, je suis née dans une famille qui n'avait pas de culture, qui n'avait pas... Et en même temps, c'est une famille formidable. Moi, je suis très proche de mes sœurs. Très, très proche de mes sœurs. Et j'étais très proche de mon père, mais lui m'a quittée. Et donc, ma violence aussi vient de ça. Tout s'explique à un moment. Et ces douleurs qui ont été les miennes et qui continuent, ces souffrances, il m'arrive encore de repenser à ça. Mon père est mort à 29 janvier. Et chaque 29 janvier, je suis perturbée. Même en t'en parlant maintenant, ça me perturbe encore. Mais du coup, ça a été un traumatisme contre lequel j'ai lutté en créant des entreprises. Parce que derrière, ce que j'ai vécu, c'est que mon premier job... Je n'avais aucun respect pour l'homme qui dirigeait la boîte. Il n'avait pas d'éthique. Je ne savais pas ce que ce mot voulait dire à l'époque. Mais je l'ai quitté pour cette raison-là. Et il fallait que j'aie un job pour vivre, puisque je n'avais pas fait d'études, je ne savais rien faire. Et je suis rentrée dans une entreprise et le bruit courait que j'étais là parce que j'étais la maîtresse du président. Ce qui était faux, ce qui était... Tout ça m'a marquée. Et puis après... La chance de ma vie, c'est que j'ai rencontré Françoise Dolto en étant standardiste dans un centre psychopédagogique. Et c'est là où j'ai commencé à mesurer mes fragilités, à mesurer comment on pouvait s'en occuper, parce que Françoise Dolto le faisait avec des enfants, qu'elle m'a autorisée à suivre certains travaux qu'elle menait. Je voyais ses livres avant qu'ils ne sortent, parce qu'elle m'avait un peu repérée comme étant un peu particulière. Mais c'est tout ça qui m'a construit. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui.
Tu me donnes énormément d'émotions, Aude, et merci de nous partager cette histoire, parce que tu viens de résumer en quelques mots un nombre important des préjugés que les femmes doivent vivre. Le fait de s'excuser de naître parce qu'on est fille... Le fait d'avoir à se battre pour prendre sa place et de nous renvoyer à ce que nous sommes et à ce que nous représentons. Le fait d'imaginer que pour réussir, il faut fatalement coucher. Et le fait de se battre parce qu'on sait qu'on a envie d'autre chose et parce que nos rêves nous portent ailleurs. Et le fait que des rencontres puissent changer notre destin. Et toi, ce qui a changé ton destin, c'est ta rencontre avec Françoise Dolto. Et quelle femme! quelle femme.
Ouais, c'était exceptionnel et je continue. Enfin, je pense à elle presque tous les jours, encore. Comme après, j'ai rencontré Simone Veil, qui m'a demandé une chose incroyable. Elle m'a dit, c'était au moment du Women's Forum, elle me dit, oh, le jour où je ne serai plus là, est-ce que vous pouvez vous occuper d'une femme que j'aime beaucoup, qui est une femme enseignante marocaine dans un lycée professionnel à Noisy-le-Sec. Et c'était il y a 11 ans, 12 ans. Et ben, je m'en occupe, Samia est une de mes meilleures amies. Et je suis proche d'elle. Je l'aide beaucoup parce que des femmes comme ça ont eu confiance en moi, ont eu confiance dans ma... Elles me savaient fragile, mais aussi créative. Tu vois tout ce paradoxe. Et souvent, c'est pas moi qui le fais, c'est mon mari qui me compare à quelqu'un de créatif. Souvent, les créateurs sont des ont de grandes fragilités. C'est exactement, je suis dans ce cas, et donc ça m'oblige à me battre encore plus, et donc à me dépasser. Et c'est en me dépassant que j'arrive à faire des choses comme le Women's Forum, ou comme Osons la France, ou enfin toutes les entreprises que j'ai créées, parce qu'à un moment, je ne mesure même pas que je suis dans la bagarre et dans outrepasser mes propres forces, parce que je n'ai aucune formation pour tout ce que je fais. Tout est instinctif, tout est aussi dans l'intuition profonde des choses, des intuitions qui se répètent et qu'à un moment, c'est mon mari qui m'a dit, j'ai remarqué que lorsque les intuitions se répétaient chez toi, lorsque tu en parlais trois fois, ça devenait quelque chose. C'est ce que je dis aux filles, écoutez vos intuitions, écoutez vos fragilités. Comme les hommes, on doit savoir écouter ça, mais on doit fabriquer ce qu'on est avec ça. Ça, c'est important.
Quel cadeau tu nous fais là. Quel magnifique cadeau tu nous fais là. Certains te voient comme une grande femme forte, courageuse, bourgeoise, celle qui tout a réussi. Et tu nous partages là tes fragilités et tu nous partages tes doutes, tu nous partages tes questionnements. Et je trouve que c'est merveilleux de dire aux femmes qui nous écoutent que nous sommes tout ça à la fois. Moi, je me suis beaucoup battue pour l'empowerment des femmes, mais nous ne sommes pas obligés d'être en permanence dans cet état de force, de lutte et de combat. On peut accepter aussi nos fragilités, nos faiblesses, parce qu'elles font partie de nous. Et c'est en se respectant et en s'écoutant qu'on trouve notre chemin. Et je trouve que tu es un bel exemple de ça.
Moi, je parle beaucoup de ça. Je suis le meilleur fournisseur de psy de Paris. C'est à un moment, quand on est fragile, quand on le sait, il ne faut pas qu'on fasse supporter ces fragilités à notre famille. Moi, j'ai un mari formidable depuis 34 ans. J'ai une fille, j'ai des petits-enfants. Ils connaissent ma fragilité et pour ne pas leur faire supporter... Mais ce n'est pas des états d'âme, mais les moments down, et j'en ai beaucoup, et des doutes. Alors, la phrase d'Audiard sur les doutes ne me suffit pas. Ce qu'il disait, les certitudes rendent con, les doutes rendent faux. Et du coup, pour ne pas, parce que c'est violent les doutes, surtout quand on crée une entreprise, est-ce qu'on a raison de faire ça? Est-ce qu'on a raison de travailler comme ça? Est-ce que c'est le bon schéma? Est-ce que où est la limite? Moi, je me heurte à ça et je travaille avec une psy régulièrement. Ça fait 35 ans. Il y a eu des moments où je me suis reposée. Et puis, il y a des périodes de bien aussi. Parce qu'en même temps, c'est paradoxal. C'est que je suis une femme heureuse. J'ai un mari de rêve. Et j'ai une famille bien. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir des psys. C'est vrai aussi pour les hommes. À un moment, cette fragilité qu'on a et qui est souvent dominante... Il ne faut pas se cacher toutes ces réalités. On n'est pas des rouleaux compresseurs. On n'est pas si fort qu'on donne la... Voilà, moi, je donne cette impression. Et c'est parce que je suis grande, parce que je suis autoritaire. Tout ça est vrai. Mais je m'en sors parce que j'ai une psy qui m'aide à remettre les choses en perspective.
C'est très important que tu parles de cela parce que ce sont des sujets qui sont généralement tabous, dont en France, les gens n'osent pas en parler. Ce n'est pas le cas des États-Unis, par exemple. Dire qu'il est important de faire un travail sur soi pour y arriver, qu'il est important de faire un travail sur soi pour poser certains bagages, pour mieux se comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas changer le monde, mais on peut commencer par se comprendre soi et trouver le chemin qui nous correspond avec tout ce que nous sommes. Et merci d'en parler de manière aussi ouverte. Moi, j'ai été coachée, j'ai suivi des psys, j'avais moi aussi tellement de bagages à déposer pour être plus légère. Je crois que c'est Toni Morrison qui disait que si vous voulez vous élever, il faut savoir déposer certains bagages, parfois qui ne sont même pas les vôtres. Donc si les femmes qui nous écoutent doutent encore, n'osent pas le faire et qu'elles ont les moyens de le faire, faites-le, cela vous sera tellement, tellement, tellement utile.
Et en plus, en France, moi je rajoute, Elisabeth, chose importante, c'est qu'on a la sécurité sociale et qu'on peut se permettre ça. Il y a des psys qu'on ne rembourse pas. Moi, j'ai toujours considéré que c'était que je n'avais pas à faire payer ça à la communauté et donc par la sécurité sociale. Donc je le fais moi-même. Mais il faut dire aux femmes que, au même titre qu'elles vont chez leur dentiste, qu'elles vont voir leur gynéco, qu'elles vont voir... allez voir, même si c'est remboursé par la Sécu, c'est une chance absolument exceptionnelle. Il n'y a pas d'autres pays comme le nôtre.
On a cette chance.
Qui fait ça. Oui, c'est une chance.
Et c'est d'autant plus important que la charge mentale, le poids psychologique de toutes les difficultés que nous avons rencontrées ces dernières années, en passant par la crise Covid, se retrouver enfermé pendant 2 ans, ça n'est pas neutre sur le cerveau humain, sur notre état psychique et psychologique. Et se faire accompagner quand on le peut, c'est un vrai cadeau. Et tu as raison de le rappeler. On va faire une petite pause pour entendre une femme que je trouve également extraordinaire, une femme qui s'appelle Aline Le Guluche, qui a appris à lire à l'âge de 50 ans. Et je trouve que c'est une force et un courage extraordinaire. Je suis intimement convaincue que l'électronisme d'aujourd'hui, c'est l'illettrisme d'hier. Et je suis curieuse de savoir comment elle vit dans ce monde totalement numérisé, digitalisé.
Alors, le fait de retourner à l'école, c'était une décision que j'avais plusieurs fois dans ma vie, j'ai demandé de retourner à l'école. Parce que je travaille depuis l'âge de 16 ans et comme on n'a pas de compétences, on travaille en usine et c'est physique et ça fait mal au dos. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital et là, il s'est avéré que mon manque de connaissances pour la lecture et l'écriture, c'était vraiment un frein à mon évolution. Donc, j'ai demandé plusieurs fois de retourner à l'école, hein, mais à chaque fois, on m'a refusé. On n'a pas compris que je pouvais être illettrée. Voilà. Mais donc il a fallu que je pousse la porte de la DRH à 50 ans et que j'explique vraiment le problème, comme quoi j'étais pas capable d'évoluer et que j'étais frustrée parce que manuellement je faisais bien mon travail, mais aussitôt qu'il fallait prendre un stylo, c'était la catastrophe et je voulais être à l'aise avec ça. Un peu plus à l'aise, tout au moins. Et c'est ça qui m'a décidé, le mal-être, le besoin d'avancer dans la vie. Alors, quand je suis retournée à l'école, en même temps, j'ai appris à travailler sur Excel, sur Word, pour pouvoir faire un CAP d'hôtellerie que j'ai eu. Et ça m'a permis quand même d'avancer un peu plus, parce que tout est informatisé maintenant. Et quand j'écris plus maintenant avec mon ordinateur, parce que voilà, il souligne en rouge mes fautes d'orthographe, mes inversions de mots, de lettres, et ça me permet de me projeter un peu mieux, puis de pouvoir me corriger plus facilement. Je vais chercher un mot dans le navigateur pour pouvoir me corriger, pour pouvoir trouver des synonymes. C'est un combat que je mène à présent, en fait. Maintenant, depuis que je suis retournée à l'école, j'ai découvert que les portes s'ouvraient du bon côté de la route. Je me suis permis de plus avoir honte de mon handicap. Je fais des fautes, ben je fais avec. Je suis l'ambassadrice du programme Écrire son avenir que Lancôme a mis en place pour la libération des femmes, et je suis aussi le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme. Mais à ce fait, hier encore, j'étais en Normandie en train de discuter avec des jeunes apprenants, et il y avait des jeunes hommes, des jeunes filles, et aussi avec des problèmes de dyslexie ou de familiaux aussi, ça peut être un problème familial, l'échec scolaire. Mmh. Et dans leurs yeux, j'ai vu tout de suite la reconnaissance que moi je me dévoile pour que elles puissent se dénoncer avec leurs problèmes et être, du coup, il y en a deux qui ont pris la parole et qui se sont confiés aussi. Et c'était un échange formidable. Et je sais que ces deux jeunes femmes et ce jeune homme, ils vont penser à moi quand ils seront en difficulté et qui diront non, faut pas baisser les bras. C'est comme ça, tout est lecture, tout est écriture. Donc, on a besoin de ça pour ne pas se faire avoir, pour pouvoir être autonome, pour pouvoir lire un contrat, pour pouvoir faire une auto-entreprise. On a besoin d'avoir toutes ces compétences. Et c'est plus qu'un CAP, qu'un métier, c'est tout un tas de compétences. Avant, on avait moins besoin, mais maintenant, c'est devenu impératif. Donc, je leur demande de ne jamais baisser les bras, d'être fiers d'eux. Et puis de continuer à apprendre, ne jamais arrêter de lire et d'écrire, c'est l'important.
Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie de cet entretien. Envie d'entendre la suite et fin de l'entretien entre Elisabeth Moreno et Aude de Thuin dans la partie 3 de cet échange, départ pour l'Afrique. Alors restez à l'écoute, le frisson sonore continue en partie 3.
Radio Chute.